Radio CSS,
la radio de la plateforme des ados.
Bonjour, nous sommes les ados du centre social Lainec et aujourd'hui nous allons vous présenter notre émission radio sur laquelle nous travaillons depuis une semaine maintenant. Nous avons dans un premier temps réfléchi à plusieurs thèmes, les énergies, l'écologie, la Coupe du Monde et les spécialités lyonnaises. Nous avons commencé à préparer des questions pour des micro-trottoirs. Puis le jour suivant, nous avons interviewé des personnes en extérieur, puis enregistré des sons, écrit des textes et monté des interviews. Nous allons pouvoir écouter des chroniques, des reportages. Nous allons également avoir la chance d'avoir sur le plateau Romain Trulia pour une émission sur l'écologie. Puis également un combat des titans, Taco versus Quenelle. Et nous commençons tout de suite avec Morgane et sa chronique. Bonjour Morgane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Caïd. Caïd est une série qui a pour épisode une durée de 8 à 15 minutes. Le créateur de ce programme s'appelle Ange Bastaria. Le personnage principal s'appelle Tony et les caméramans sont Franck et Steve. L'histoire débute avec deux caméramans qui sont censés filmer des clips de rap et les monter. Ils s'apprêtent à faire la même chose pour un rappeur, mais cela ne se passe pas comme prévu. Ce qui m'a fait aimer cette série, c'est la personnalité des personnages et les clichés représentés dedans. L'humour de la série qui est rare mais bien présente, et dès qu'elle est là, ça nous fait rire. Le déroulement de l'action, dès le premier épisode, il y a de l'action et un suspense insoutenable. Je vous conseille d'aller le voir. Merci de m'avoir écouté.
Nous venons d'écouter la chronique de Morgane sur la série Caïd et maintenant nous allons écouter l'avis des gens en ce qui concerne les énergies comme la baisse des chauffages et l'augmentation des factures. Nous sommes allés à Grange Blanche interviewer les passants. Les avis sont tous différents. Certains pensent que baisser le chauffage de quelques degrés n'est pas si contraignant, tandis que d'autres trouvent cela scandaleux.
Aujourd'hui, nous allons interviewer des passants dans la rue pour connaître leur avis sur l'augmentation des factures et la pénurie d'électricité. Nous allons commencer avec la première question.
Avez-vous peur d'avoir froid cet hiver ?
C'est vrai que si on manque de chauffage, bah déjà pour les salles de classe, on sera moins à l'aise. Et je pense que, ouais, c'est mieux d'avoir du chauffage.
Moi, je mettrais des pulls et ça devrait aller normalement, j'espère.
Moi, ça m'embête parce que je suis super frileuse, mais du coup, je vais acheter des plaids, voilà.
Avez-vous peur pour le montant de vos factures ?
Ben, le montant, oui, mais on peut rien faire.
Alors, les factures, elles ont déjà augmenté, je trouve, depuis... Enfin, il y a eu une inflation, très honnêtement, et j'entends déjà ma mère se plaindre des factures. Et puis, je pense que prochainement, si ça ne s'arrange pas dans le monde, en fait, toutes les guerres qu'il y a, surtout en Ukraine, je pense que oui, j'ai très peur en fait que les factures, en fait, elles augmentent d'autant plus qu'elles sont déjà augmentées maintenant, en fait.
Franchement, honnêtement, oui, j'ai toujours peur. Et en plus, ils se trompent souvent au niveau de l'électricité. Ils facturent plus que prévu d'habitude, des fois. Et oui, au niveau du chauffage, peut-être pas au niveau de la lumière, mais plus au niveau du chauffage, par exemple, en hiver, le radiateur et tout, tu vois, c'est pas facile, quoi. Donc oui, j'ai un peu peur. En plus, les factures, ils augmentent de plus en plus, surtout en cette situation et en cette période.
L'hiver va être compliqué, je pense, parce que déjà, le changement climatique, ces temps-ci, l'hiver va arriver très tard et très fort, je pense. Et du coup, ça va être compliqué, surtout que nous, on travaille en structure avec des petits, enfin, des enfants. Donc ça va être compliqué aussi. Les enfants vont tomber souvent malades et pour nous, ça va être compliqué.
Moi, je vis dans une résidence étudiante, donc ça, c'est des trucs qui sont inclus dans les charges. Ça ne me pose pas trop de problèmes.
Pareil, franchement, c'est pas un truc qui me préoccupe principalement, quoi. C'est pas moi qui le gère, donc c'est un truc collectif, donc ça va.
Moi, j'habite en HLM, donc j'ai le chauffage dans toutes les pièces. Je trouve que c'est pas nécessaire. Ils nous mettraient le chauffage plus au salon, dans la salle de bain, ce sera une très bonne chose. Mais le fait que le chauffage est dans les chambres, que ce soit dans les chambres, je n'arrive pas en tout cas, je trouve ça nul. On aurait pu mettre, des bouillottes sur le lit si on a trop froid. ça aurait fait baisser les factures et moins de dépenses pour nous, quoi. Mais dommage, ils en mettent de partout.
Et est-ce que vous pensez que réduire le chauffage, ça va aider à sauver la planète du réchauffement climatique?
Oui, je pense que ça peut y contribuer, ça peut aider.
Moi, je pense que si tout le monde s'y met, tout le monde réduit de quelques degrés son chauffage, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien et vraiment sauver la planète.
Je pense qu'on aura de l'énergie, mais que ça va coûter très cher. Ouais.
D'accord. Et du coup, vous pensez que ça va aider la planète de baisser le chauffage?
Non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour aider la planète en amont. Enfin, je pense que oui, ça va aider si nous, on consomme moins, mais... Je pense que c'est un peu le petit bout de la lorgnette et qu'il y a peut-être plus de choses à faire et qu'il y a d'autres choses à faire en amont avant de commencer à ça, notamment réfléchir aux énergies renouvelables, à d'autres manières de consommer plutôt que de juste baisser la consommation.
Bah, je pense que pour les gens qui ont tendance à beaucoup consommer, ça pourra réduire pas mal de choses, mais je suis pas sûre qu'on arrive à tout changer en baissant juste les chauffages.
Pas sûr que ça change grand chose mais parce que en l'occurrence il y a encore des magasins qui restent allumés la nuit et tout, donc je sais pas si eux aussi est-ce qu'ils vont faire quelque chose, mais pour moi c'est plus ce genre de consommation qui sont vraiment impactantes que juste baisser un petit peu nos petits foyers.
Bah, je rejoins un peu ce qu'ont dit les filles, je pense que c'est pas réduire à notre titre personnel qui va faire changer les choses, mais plutôt si toutes les grandes entreprises, les grands magasins, etc. Limiter leur consommation.
Nous venons d'entendre des avis sur les énergies, la baisse du chauffage et l'augmentation des factures. Sans plus tarder, nous allons écouter une interview entre Lana et Romain, grand footeux mais aussi très écolo. Bonjour Romain.
Bonjour.
Présentez-vous vous et votre métier.
Alors, mon métier au sein du centre social l'ANEC, j'ai un double métier. Le premier métier, c'est d'être dans l'événementiel, donc de gérer toute la logistique et l'organisation des événements au sein du centre social. Et ma deuxième casquette, c'est de travailler pour le développement écologique du centre social, de toutes les actions que l'on peut mener. C'est vrai que c'est quand même assez en lien avec les événements, puisque souvent, quand on fait un événement au centre social, on essaye de lier aussi l'écologie avec l'événement en question, peu importe l'événement.
Qu'avez-vous mis en place pour améliorer l'écologie au sein du centre ?
Alors, la réelle volonté du centre social, c'est vraiment d'accompagner dans la transition écologique et de surtout d'impliquer les habitants de l'ANEC, même ailleurs aussi, à respecter au mieux l'écologie. Donc, on essaie de faire des petites choses en place. On a mis en place l'AMAP. L'AMAP, c'est l'Association pour le maintien d'une organisation paysanne, d'une agriculture paysanne. Donc, l'objectif, c'est vraiment de produire et d'avoir des produits locaux et qui respectent l'environnement. On a fait aussi une boîte à partage qui est installée juste devant le centre social. Donc on peut déposer des livres, on peut déposer des jeux de société, on peut déposer des vêtements. Et les gens qui sont dans le besoin peuvent les récupérer. Donc ça fait entre une sorte de seconde main pour tous les objets. Depuis 7 ans aussi, on organise un vide-grenier sur le boulevard Ambroise-Paré. Donc ça, c'est très intéressant, puisque du coup, les objets, des fois, on garde beaucoup d'objets dans les greniers ou même dans nos pièces qu'on n'utilise pas forcément. Des petits objets, des meubles aussi, des fois. Et du coup, l'objectif, c'est en fait de proposer aux citoyens d'organiser pour eux le vide-grenier et qu'ils aient juste à descendre avec leurs objets et puis pouvoir les vendre pour que d'autres personnes puissent les utiliser. Et puis aussi, on essaye de faire régulièrement l'achat de vélos. Donc là, on devrait recevoir d'ailleurs dans l'après-midi un triporteur. Donc c'est un vélo un peu électrique et aussi manuel qui nous permet de faire les déplacements pour amener le matériel dont on a besoin pour les activités en dehors du centre social, donc sans utiliser de voiture, sans utiliser d'essence et en faisant travailler nos jambes.
Est-ce que tout le monde respecte ces consignes et est-ce que cela a occasionné des diminutions de déchets produits par le centre ?
Alors globalement oui, tout le monde respecte cela. Alors ça prend toujours un peu de temps, il faut toujours répéter les choses, mais c'est à force de répéter qu'on réussit. Ce qui est intéressant, c'est aussi on en parle souvent, mais c'est les coûts quand même, puisque par exemple là on consomme beaucoup de papier. L'objectif, c'est de consommer moins de papier, de recycler le papier. Par exemple, utiliser une feuille, une fois qu'on utilise la feuille d'un côté, on peut la donner à quelqu'un d'autre pour qu'il utilise l'autre côté, en tant que brouillon ou autre. Et donc, petit à petit, on essaie de faire respecter ces règles. Globalement, on n'a pas trop de soucis. Alors, il y a une sensibilisation différente à l'écologie, suivant les gens. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Il y en a qui, ce sont les idées qui leur traversent pas du tout la tête. Mais souvent, on se rend compte quand ça, quand ça touche au portefeuille et bah, aussi à notre budget du centre social, et bah, on est prêt à faire des efforts facilement parce qu'on sait que derrière, ça peut nous permettre de mettre en place d'autres activités avec l'argent qu'on économise en étant écologique, en fait, tout simplement.
Concernant l'écologie au centre, quels sont vos projets ?
Alors, bah, on essaie d'avoir le maximum de projets avec des associations. Donc d'autres associations du 8e arrondissement, je pense à Épicé Bon et Récup et Gamelle. Donc c'est des associations qu'on essaie de faire travailler, par exemple quand on fait un événement, quand j'organise un événement où il y a un buffet ou quelque chose comme ça, ben, on essaie de travailler avec l'association Épicé Bon, une association qui permet d'avoir donc, des produits écologiques, des produits qui viennent de l'agriculture paysanne, au lieu d'aller dans des grandes surfaces, dans des grands magasins pour nourrir les gens. Et puis bah, Récup et Gamelle, pareil, une association qui est faite pour lutter contre le gaspillage et redistribuer des repas. On sait que c'est toujours pas suffisant, mais bon, comme d'habitude, on n'en fera jamais assez, on essaie de faire au mieux. On essaye aussi de faire des projets avec les autres centres sociaux. Donc on a le centre social LAENEC qui est en collaboration avec le centre social des États-Unis et le centre social Gisèle Halimi, donc des centres sociaux qui sont dans le 8e arrondissement. L'objectif, bah, c'est de faire de la proximité, d'avoir des projets qui sont plus gros. Donc, quand on est ensemble, plus on est mieux c'est. Et aussi de favoriser bah, le lien social avec les habitants. Et tout ça dans une globalité donc, de la Fédération des centres sociaux. Donc, c'est vraiment un projet départemental voilà, qu'on essaye de mettre en place au quotidien avec les différents centres sociaux et les différentes associations comme la MJC de Mon Plaisir, la MJC Mermoz, enfin voilà, on essaye de mettre tout le monde ensemble au maximum.
Eh bien, merci Romain pour avoir répondu à ces quelques questions.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup pour cette interview très intéressante. On enchaîne tout de suite avec un reportage sur la Coupe du Monde 2022. Tandis que certains appellent au boycott, les plus fervents supporters seront bel et bien devant leur télévision et prédisent même les futurs gagnants de cette Coupe du Monde 2022.
Bonjour, on vient du centre social LAENEC et on fait une émission radio et on voudrait vous poser quelques questions sur la Coupe du Monde en matière d'énergie, d'écologie.
En matière d'énergie, bah, il va y avoir beaucoup de consommation d'énergie je pense. Hein.
Alors en termes d'énergie, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que c'est un désastre écologique parce que dans les stades il y a notamment des immenses climatisations et ça c'est inconcevable de mettre autant de climatisation dans un stade de foot alors que clairement il n'y en a pas besoin.
Mais écoutez, je suis totalement d'accord avec lui. On ne sait pas exactement combien ça va coûter, combien est-ce qu'on va consommer, mais on sait qu'il y a des moyens de faire ça beaucoup plus simplement et beaucoup plus sainement et écologiquement.
Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être dépensée, parce qu'il va y avoir énormément de monde sur cette Coupe du Monde qui vont venir d'énormément de pays, et surtout au niveau du stade, étant donné qu'ils vont mettre des climatiseurs spécifiques pour pas que les joueurs souffrent de la chaleur.
Je pense au niveau lumineux, enfin, ça va prendre vachement d'énergie, je pense.
Parce que à cause de la température, les matchs, ils n'ont pas lieu le soir.
Du coup, moyen. Si, je pense que ça va être le soir, ouais. L'éclairage, ça va prendre beaucoup d'énergie.
Le transport aussi ?
Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un vrai truc, les allers-retours en avion de tous les gens qui vont venir. Et je ne me rappelle plus, mais j'avais entendu, c'était abusé le nombre de gens qui allaient faire des allers-retours en avion pour la Coupe du Monde, justement. Voilà.
Alors, je sais que la Coupe du Monde, elle se déroule dans un pays où il fait très chaud, et donc ils vont être obligés de beaucoup climatiser. Donc s'il climatise beaucoup, ça va certainement consommer beaucoup d'énergie.
Qu'en pensez-vous au niveau environnemental ?
D'un point de vue environnemental, c'est un désastre parce qu'on construit des stades qui vont servir qu'une seule fois déjà. Donc on va utiliser énormément de matière pour qu'une seule Coupe du Monde. Ces stades ne vont pas être réutilisés. Apparemment, ils vont être vendus ailleurs, je crois. Mais bon, malgré tout, il va y avoir le transport, tout ça. Et puis bah, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en termes d'écologie, bah, c'est un vrai désastre, notamment à cause de ces immenses climatisations.
Non, c'est super, il y a besoin de climatiseurs de partout, dans la voiture, à la maison, bah, écologique de partout. Hein. Dans le tramway, il y a le climatiseur, dans le métro, il y a le climatiseur. Pourquoi Qatar n'y aurait pas ?
Bah écoutez, après, au-delà des climatisations, il y a aussi le fait que bah, ce soit loin des plupart des grands pays qui jouent au foot et qui regardent le foot. Donc du coup, il y aura aussi beaucoup de déplacements. Ça fera beaucoup de déplacements de supporters, beaucoup d'avions, des hôtels aussi. Beaucoup de choses qui sont créées juste pour cet événement, au-delà des stades, hein, des hôtels, des grandes places, enfin tout ce qui est fait pour les supporters, les fan zones. Et donc tout ça va être créé seulement pour l'événement et donc ça ne va pas être réutilisé.
Est-ce que selon vous, ça vaut le coup d'utiliser autant d'énergie pour du foot ?
Alors, si c'est en termes financiers, pour moi, j'ai envie de dire, le foot, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, ça s'autofinance. Après, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Niveau argent, on sait qu'il y en a dans le foot, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est niveau de la morale, niveau de l'histoire et de l'écologie et de l'histoire du foot. Même aussi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit intéressant à garder dans l'histoire du foot, quoi.
Donc du coup, est-ce que vous êtes d'accord que la Coupe du Monde se passe au Qatar ?
Bon, en effet, au niveau écologique, il aurait été mieux de le faire en été, de toute façon, parce que le Qatar est un pays chaud, ça sert à rien de le faire en hiver. Sinon, on va climatiser, en effet, utiliser beaucoup d'énergie. Donc non, au niveau éthique et écologique, c'est pas la meilleure chose à faire, je pense.
Ok, merci. Et du coup, vous voudriez que ça se passe dans quel pays ?
Dans des pays nordiques, comme la Norvège, ou même en France, où on est un pays tempéré.
Bah, tout le temps, ça change de pays. Bah, cette fois, c'est au Qatar, c'est tout, hein.
Bah, qu'elle se passe au Qatar ou dans un autre pays, peu importe, tant qu'on respecte les personnes qui travaillent dans les stades et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la planète, que ça se passe dans n'importe quel pays, il n'y a pas de souci.
Je suis complètement d'accord avec le fait qu'elle se passe au Qatar. Pour moi, ce n'est pas le problème du pays, le problème c'est les conditions dans lesquelles elle se passe.
Moi, je n'ai rien contre le Qatar. Simplement, à partir du moment où on décidait de faire cette coupe du monde au Qatar, on savait qu'on aurait nécessairement des très grosses dépenses d'énergie. Donc, c'est pas contre le Qatar que je serai contre le fait de faire cette coupe dans un pays où il fait très 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 chaud. Les gens qui aiment beaucoup le football vont vous dire que le football mérite qu'on fasse beaucoup d'efforts pour lui, pour ce sport. Mais c'est vrai que on se dit qu'on aurait pu éviter de faire ces dépenses sans pour autant nuire au football si on avait fait la coupe ailleurs.
Non, surtout qu'en plus, il y a des stades qui sont déjà construits qu'on n'utilise pas. Et des pays étaient en capacité d'accueillir la Coupe du Monde et on a choisi un pays qui a dû construire.
Et qui, en plus de ça, quand même, au niveau humain, il y a des vrais problèmes. Quoi. C'est pas
des valeurs qui sont à remettre en question. Oui. Oui. J'irais même plus loin. Moi, j'ai demandé à ma famille de ne pas regarder la Coupe du Monde.
Ah, mais moi aussi. Pour pas la boycott, totalement. Enfin, c'est.
Si on va voir la Coupe du Monde, on va la suivre dans notre club le 16 long 8. Elle sera en direct rediffusée.
Bien sûr, je vais regarder. C'est normal.
Moi aussi, je vais regarder.
Je dénonce tout ce qui se passe au Qatar, mais de façon très honnête, je vais malgré tout regarder des matchs. Voilà. Malheureusement, voilà, c'est la vérité.
Moi, je pense que le mieux à faire, ce serait peut-être qu'on peut se dire que des fois, quand il y a un match un peu moins intéressant, qui nous intéresse moins, déjà essayer de ne pas le regarder. Ce sera toujours une petite goutte d'eau, puis multiplié par le nombre de supporters, ce sera peut-être ça.
Je pense que cette question aujourd'hui de demander aux supporters de boycotter la Coupe du Monde, je pense que les pouvoirs politiques auraient pu prendre des décisions bien avant et de dire que c'était juste pas possible de faire la Coupe du Monde là-bas avant que les stades soient construits ou autres. Et que maintenant, prendre un petit peu en otage des supporters en disant, bah voilà, il ne faut pas regarder. Voilà, moi, ça me gêne un peu, même si, bon, bah voilà, moi, je pense qu'il y a un côté positif là-dedans, parce qu'il faut toujours essayer de voir le positif. Ça a tellement fait un tollé, on en parle tellement, que je pense que ça va faire jurisprudence et que dans les prochaines Coupes du Monde, on sera vigilant à ça.
Même si certaines personnes ne veulent pas regarder la Coupe du Monde, nous sommes quand même allés demander aux gens quelle était leur équipe favorite et qui allait gagner le tournoi.
Pour vous, quelle est l'équipe qui a le plus de chances de remporter ce trophée ?
J'aimerais que ce soit la France, mais bon, voilà, on va dire la France.
Moi, je suis pour l'équipe de France et pour le Maroc.
D'accord.
Nous, on vise la demi-finale, minimum.
Je suis pas faute du tout. Je voulais que l'Algérie joue, mais vu qu'on n'est pas qualifié, bah.
Moi, je suis personne. Moi, je suis pour l'Algérie, c'est trop. Je sais pas.
Non, mais l'Algérie, non.
Mais oui, mais moi, je dis personne.
L'Allemagne ?
Le Brésil.
Bon, allez, on espère la France pour la troisième étoile.
L'Algérie.
Pareil, l'Algérie.
Ils sont disqualifiés, hein.
T'as dit, on connaît rien.
La Coupe du Monde, bah, c'est la France. Ou le Brésil. Non, ouais. Entre la France ou le Brésil, ok?
Le Brésil. Le Brésil aussi.
La France.
Et le Brésil aussi.
La France. Oui, la France. J'ai confiance. Allez, la France. Allez, la France. On va gagner la Coupe du Monde au Qatar. On va la gagner.
Bah, la France. Bah, j'espère la France.
La France, hein?
Le Brésil. Ah, le Brésil, pareil.
Brésil.
On va dire la France, hein? Je suis pas trop le foot, hein, mais... Vous, pensez quoi?
Moi, je pense la France, hein.
C'est bien, on supporte son pays.
Merci, passez une bonne journée.
Bonne journée.
Nous venons d'écouter le reportage sur la Coupe du Monde. Maintenant, nous allons vous présenter le combat tant attendu entre les quenelles et les tacos. On va vous expliquer comment s'est passé ce combat. Nous sommes allés à Grange Blanche pour interviewer plusieurs personnes pour leur demander leur préférence entre les quenelles et les tacos.
Bonsoir à tous, je suis votre commentateur préféré Morgane Bobo. Et aujourd'hui, je vais parler du match de ce soir, 20h55, Tacos Soccer vs Quenelles Soccer. Les tacos passent en favoris et les quenelles outsiders. Nous verrons bien qui gagnera ce match. Que la meilleure équipe gagne.
Quelle est pour vous la spécialité lyonnaise que vous préférez entre le tacos et la quenelle?
Le tacos.
C'est le but des tacos. Magnifique but de la part de Tacos Cordon Bleu.
Tacos.
Taco, taco, taco. Goal, 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 c'est le but de Tacos Kebab.
Quenelle. Parce que ma belle-maman, elle les cuisine super bien.
Second poteau quenelle, c'est le but de l'équipe des quenelles. Magnifique but.
La quenelle. C'est très bon, la quenelle. La quenelle, c'est très bon.
Et c'est l'approche de la quenelle.
C'est de la farine avec de l'eau. Et c'est ça, la quenelle.
Et c'est le but. Les quenelles remontent le score avec un score de 2 à 2.
C'est la mi-temps. Je suis au bord du terrain. Et nous allons interviewer l'entraîneur des tacos. Bonjour. Qu'en pensez-vous de votre équipe durant cette première mi-temps?
Salam alaikum.
Bonjour. Je pense que mon équipe peut encore gagner. J'ai confiance en eux. Ils peuvent marquer. Je suis sûr qu'ils vont remonter.
Le tacos.
La quenelle.
Ouais, pour moi, c'est le tacos.
Le tacos aussi.
La quenelle, je peux pas répondre tacos.
Le tacos.
Et c'est le penalty des tacos.
Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est gras?
Et c'est le but! Le but magnifique! Sur ce penalty des tacos!
Et aussi, j'ai une dernière question pour vous. Quelle équipe qui a le plus de chances de gagner la Coupe du Monde?
Les tacos.
Merci de nous avoir écoutés. Nous avons interviewé des jeunes comme des moins jeunes sur des sujets différents comme l'écologie, la Coupe du Monde et les spécialités lyonnaises. Les avis sont mitigés en ce qui concerne l'écologie. Beaucoup gardent espoir en pensant que si chacun apporte sa pierre à l'édifice, l'avenir sera meilleur. En parlant de meilleur, il semblerait que la France et le Brésil soient attendus en finale cette année. Concernant le match Tacos-Quenelles, le Tacos remporte largement ce match. Cette émission touche à sa fin. Elle fut réalisée par Charlène, Lana, Anna-Rose, Ethan, Ambrine, Morgane, Milan, Isaac, Younes et Maïsan.
Radio CSS,
la radio de la plateforme des ados.